VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 9 octobre 2020. Abdelrahmane Dia à la présentation, voici les titres. L'opposant malien Soumaïla Cissé retourne au sein de sa famille après 7 mois de captivité. L'humanitaire Sophie Petronin est également arrivée en France après 4 ans aux mains de djihadistes au Mali. Manifestation contre les violences policières au Nigeria où les forces de sécurité sont accusées de torture. L'application de l'accord historique de paix signé entre le gouvernement soudanais et les rebelles va coûter 7,5 milliards de dollars. Le prix Nobel de la paix attribué au programme alimentaire mondial pour ses efforts de lutte contre la faim dans le monde. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Soulagement à Bamako après la libération de l'opposant Soumaïla Cissé, qui était aux mains de présumés djihadistes depuis mars alors qu'il battait campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou. Une Française, Sophie Petronin, et 2 Italiens ont également été libérés après l'élargissement de centaines de djihadistes condamnés ou présumés. Les derniers détails avec Babasikoura.
Soumaïla Cissé et Sophie Petronin ont recouvré la liberté en même temps qu'un prêtre et un jeune Italien après des mois voire des années de détention aux mains de présumés djihadistes. L'annonce de la libération de Soumaïla Cissé, de Sophie Petronin et des autres otages a été faite hier soir sur Twitter par la présidence malienne, mettant fin à plusieurs jours de rumeurs. Ils ont été accueillis hier soir à Bamako. Aucun détail n'a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération qui se dessinait depuis le week-end. Aucune information n'a non plus été fournie sur l'état de santé de Mme Petronin, 75 ans, et Soumaïla Cissé, 70 ans. Sophie Petronin avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Soumaïla Cissé, pour sa part, deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, avait été enlevé le 25 mars dernier, alors qu'il faisait campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Le président français Emmanuel Macron annonce sur Twitter le retour en France ce vendredi de l'ex-otage Sophie Petronin et son intention de l'accueillir à son arrivée.
Au Nigeria, des centaines de personnes sont descendues ce vendredi dans les rues de Lagos pour le 2e jour consécutif de manifestations contre les violences policières. La contestation est née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo devenue virale montrant des agents présumés de la brigade spéciale de répression des vols tuant un homme dans l'état du Delta. Les autorités ont nié l'authenticité de la vidéo et son auteur a été arrêté en début de semaine, mais cela n'a fait qu'amplifier le mécontentement de la jeunesse nigériane. Depuis plus d'une semaine, de nombreux Nigérians exigent la dissolution de la brigade spéciale accusée d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Au Burundi, un ex-député d'opposition a été incarcéré jeudi soir à Bujumbura, la capitale. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi un de ses avocats, affirmant qu'il lui est reproché d'avoir dénoncé de présumés crimes commis sous la présidence de Feu Pierre Nkurunziza. Fabien Bansirinyanuno a été inculpé de rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Selon son avocat, on lui reproche ses accusations d'exécution extrajudiciaire envers les institutions de la République, des propos qu'il aurait tenus en février alors qu'il était encore député. Il avait été l'un des rares députés à voter contre un projet de loi élevant au titre de guide suprême du patriotisme le président Nkurunziza, décédé en juin, 2 mois avant la fin de son mandat. La mise en application du récent accord de paix entre le gouvernement soudanais et les mouvements armés va coûter 7,5 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué la ministre des Finances, Eba Mohamed Ali Ahmed. Le point avec Nani Talani.
Selon le document signé le 3 octobre à Juba, le gouvernement soudanais s'est engagé à financer d'importants projets de développement dans les régions affectées par 17 ans de guerre civile. La mise en application du plan de paix nécessite au moins 7,5 milliards de dollars sur 10 ans, a annoncé la ministre des Finances, Eba Mohamed Ali Ahmed. Hier, au cours d'une réunion de travail de définition des besoins, La ministre a aussi demandé aux gouverneurs et aux responsables locaux de fixer les priorités et de déterminer les projets les plus importants et les plus urgents, tels que le retour des réfugiés. Pour Mme Ahmed, la réussite d'un plan de paix dépend entièrement de la manière de résoudre les problèmes fondamentaux qui ont causé les guerres et les conflits. Elle a cité par exemple le volet partage des richesses, pour lequel le gouvernement s'engage à verser immédiatement 300 millions de dollars à la Commission de développement et de reconstruction du Darfour, puis 1,3 milliard de dollars sur 10 ans. La ministre a aussi insisté sur la création, par son département, d'un environnement favorable à l'investissement pour inciter le secteur privé local et international à investir dans les régions les moins développées du Soudan.
En Afrique du Sud, la commission d'enquête chargée de la lutte contre la corruption d'État a assigné ce vendredi l'ex-président Jacob Zuma à se présenter avant le mois de novembre pour témoigner. Cette assignation survient 10 jours après que M. Zuma, jugé pour corruption, a accusé le président de la commission d'enquête d'être partial et réclamé qu'il se récuse. Depuis bientôt 2 ans, la commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires. Au moins 34 témoins à ce jour impliquent directement et indirectement l'ancien président, selon le principal avocat de la commission, Paul Pretorius. Mais l'ex-président a refusé à plusieurs reprises de témoigner.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Nobel de la paix a récompensé le Programme alimentaire mondial, organisation onusienne luttant contre la faim dans le monde, où une personne sur 11 souffre de sous-alimentation. Nathalie Barche.
Le Programme alimentaire mondial est récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim. Sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et son rôle dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. Fondé en 1961 à Rome, l'organisme onusien, financé par des contributions volontaires, dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier. Plus de 690 millions de personnes souffrent de sous-alimentation dans le monde. Le Programme alimentaire mondial est très honoré d'avoir reçu le prix Nobel de la paix, a déclaré le directeur du PAM, l'Américain David Beasley, qui s'est dit sans voix et a souligné le lien indissociable entre sécurité alimentaire, paix et stabilité. Plus de 300 candidats étaient en lice cette année. Le prix, une médaille d'or, un diplôme et près de 950 000 euros doit être remis le 10 décembre à Oslo, si les conditions sanitaires le permettent, ou sinon à distance via des moyens numériques.
Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il envisageait de participer à un meeting de campagne samedi en Floride, un état clé pour la présidentielle du 3 novembre. Peu auparavant, son médecin avait affirmé que le président avait globalement extrêmement bien réagi au traitement contre le COVID-19. Le président a affirmé qu'il ne pensait pas être contagieux et qu'il se sentait très bien. Il a indiqué qu'il serait à nouveau testé au COVID-19 ce vendredi. L'inquiétude est vive en Europe où la propagation du coronavirus repart de plus belle. Le gouvernement espagnol a décrété ce vendredi l'état d'alerte dans la région de Madrid pour tenter de freiner l'augmentation du nombre des cas de COVID-19. L'Allemagne, jusqu'ici plus épargnée que ses voisins, redoute qu'elle ne devienne incontrôlée. En France, 6 grandes villes dont Paris vont basculer samedi matin en zone d'alerte maximale, synonyme de nouvelles restrictions sanitaires. Plus de 36,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie, qui a fait 1 063 000 morts à travers le monde. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé ce vendredi les parties en conflit dans le Nagorno-Karabakh à établir un cessez-le-feu urgent. Dans un communiqué, Michel Bachelet juge très inquiétant de constater que des zones peuplées auraient été prises pour cible et bombardées à l'arme lourde dans la zone de conflit et ses environs, et appelant à un cessez-le-feu urgent face à l'impact sur les civils. Les affrontements ont repris depuis le 27 septembre entre séparatistes arméniens de la République autoproclamée du Nagorno-Karabakh et forces azerbaïdjanaises. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par John Lindon.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté jeudi devant l'Assemblée nationale un budget record pour 2021 d'un montant d'environ 30 milliards de dollars. Ce budget est supérieur d'environ 20% à celui présenté l'année dernière et est présenté au moment où le Nigeria, première économie du continent africain, s'attend à une récession au troisième trimestre 2020. Plus gros producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, le Nigeria est frappé de plein fouet par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus qui a fait chuter les cours de l'or noir. La croissance du PIB devrait être négative au troisième trimestre de cette année, a prévenu le chef de l'État nigérian. Le géant pétrolier algérien Sonatrach et l'espagnol Naturgy ont signé à Alger un accord gazier mettant un terme à leur contentieux en marge de la visite du premier ministre espagnol Pedro Sanchez. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint publié jeudi. Selon une source proche des négociations, les nouvelles conditions du contrat sont très compétitives. L'Algérie est depuis des années le principal fournisseur de gaz de l'Espagne, notamment via le gazoduc Medgaz, dont Sonatrach possède 51% et Naturgy 41%. Le département du commerce américain a annoncé vendredi qu'il allait imposer immédiatement des droits anti-dumping préliminaires sur les importations de tôle en alliage d'aluminium en provenance des 18 pays, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, l'Inde ou encore l'Italie.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. C'est jour de match pour de nombreuses sélections africaines qui profitent des journées FIFA pour disputer des rencontres amicales. Le Japon et le Cameroun se sont neutralisés, 0-2, 2-1 pour le Kenya devant la Zambie. À suivre aussi Burkina Faso, République démocratique du Congo, Maroc, Sénégal, Congo, Gambie, Algérie, Nigeria, Ghana, Mali ou encore Mauritanie, Sierra Leone. Hier, la Belgique et la Côte d'Ivoire ont fait match nul 1-1. Franck Kessier a répondu sur pénalty à la 87e minute au but de Michy Batshuayi inscrit à la 53e, 1-1 entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Lui frappe à la porte des Lions de l'Atlas mais devra encore attendre. Mounir El Haddadi n'a pas été qualifié par la commission des statuts de joueur de la FIFA. D'après la commission, l'attaquant marocain du FC Séville n'est pas qualifié parce qu'il a joué un match international avec les moins de 21 ans de l'Espagne en 2016. À cette époque, il avait déjà 21 ans alors que le nouveau règlement de la FIFA prévoit que le joueur peut changer de nationalité sportive, même s'il a joué avec une autre sélection, entre autres, s'il avait moins de 21 ans lors de sa première convocation. La Fédération royale marocaine de football dit qu'elle va faire appel de la décision. Encore donc une déception pour Mounir El Haddadi, qui était pourtant en stage avec la sélection marocaine depuis le début de la semaine. Par contre, Eyman Barcock et Samim Naoué sont autorisés à jouer avec les Lions de l'Atlas. Ici, en NBA, les Lakers de LeBron James peuvent être sacrés champions pour la 17e fois de leur histoire ce soir s'ils battent une 4e fois Miami, mais le Heat, mené 3-1 et dos au mur, compte bien se battre jusqu'au bout. C'est à partir de 1h du matin, temps universel, que débutera ce choc de la finale NBA, le premier décisif pour l'attribution du titre 2020 au terme d'une saison marquée par la pandémie de coronavirus qui l'a interrompue durant 4 mois et demi, la lutte contre l'injustice raciale et la mort de Kobe Bryant, dont Los Angeles porte encore le deuil. D'ailleurs, c'est vêtu du maillot noir et or Mamba Edition, avec lequel ils n'ont pas encore perdu, qu'ils joueront. En cas de victoire, les Lakers pourront enfin rejoindre Boston, le rival en y, au panthéon des clubs les plus titrés de la NBA. À titre individuel, LeBron James est bien parti pour décrocher un quatrième sacre avec une troisième équipe différente après Miami en 2012 et 2013 et Cleveland en 2016. Seuls Robert Horry et John Saleh ont été sacrés avec trois franchises différentes. Les Kings est donc en mission pour les Lakers, pour Kobe, pour lui et bien sûr pour l'histoire.
Merci à vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'opposant malien Soumaïla Cissé, enlevé en mars dernier, et l'humanitaire française Sophie Petronin, enlevée en décembre 2016, ainsi que deux autres otages italiens, ont été libérés au Mali. Ils étaient détenus par des présumés djihadistes. Ces libérations ont été obtenues contre celles de centaines de djihadistes présumés ou condamnés. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint le docteur Kalilou Sidibé, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Je reconnais que la dynamique avait été entachée sous Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait mis en place un comité de crise pour d'abord rentrer en contact avec les ravisseurs et ensuite engager des négociations et des pourparlers afin d'obtenir cette libération. Il faut reconnaître aussi que la transition avait pris cette libération à bras le corps, parce que comme le disait hier l'honorable Soumaïla Cissé lui-même, le président de la transition avait été investi le 7 septembre et dès le 26 septembre, ils ont demandé une preuve de vie. Donc ça dit qu'effectivement la transition, les autorités de la transition étaient dans la dynamique qui avait été enclenchée depuis le président de l'Ambouan Partida.
Soumaïla Cissé était le chef du fil de l'opposition sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que sa libération va apporter un plus à la bonne marche de la transition?
Soumaïla Cissé joue un rôle essentiel dans la vie politique malienne et cette libération va permettre à booster cette dynamique qu'il a toujours eue et ça va permettre aussi de concilier souvent certaines positions plus ou moins inconciliables. Donc je pense que Soumaïla, il vient à bon moment et il va comme toujours jouer un rôle essentiel d'abord pour la stabilité sociale et aussi pour l'apaisement de l'environnement politique malien.
Les otages ont été libérés contre la libération d'une centaine, sinon un peu plus de 100 djihadistes. Est-ce qu'il ne faut pas craindre une résurgence des attaques djihadistes?
C'est en tout cas la crainte qui est exprimée par là, mais moi je pense qu'on n'est pas à ce niveau. Actuellement, c'est la libération des otages qui étaient au nombre de 4 que nous devons nous réjouir. Et maintenant, le reste de dire que libérer une vingtaine de prisonniers ou une centaine de prisonniers va intensifier la violence, c'est pas évident. Et comme on sait, dans la pratique de libération des otages retenus par ces groupes, généralement c'est tout comme ça. C'est une épreuve de nerf. C'est des négociations et c'est des échanges. Donc souvent, ils ont tendance à monter la barre très haute pour obtenir ce qu'ils veulent.
Il y a eu ce processus de négociation sous Ibeka, qui a commencé sous Ibeka, vous le disiez tout à l'heure, et qui a abouti sous la transition à la libération de ces otages-là. Est-ce que cela peut servir d'un début de négociation avec les djihadistes pour mettre fin à ces violences qui ne finissent pas au Mali?
Le mandat du comité de crise et qui avait été mis en place par le président Ibrahim Boubacar Keïta, était d'obtenir la libération de Soumaïla Cissé. Si des négociations éventuelles doivent avoir lieu avec ces acteurs, je pense qu'il appartiendra au gouvernement de la transition de mettre en place des moyens afin de rentrer en contact avec ces personnes-là pour mener des négociations afin de faire revenir la sécurité et la culture dans ces localités du Mali qui sont en proie à cette violence depuis déjà 7 ou 8 ans.
C'était Kalilou Sidibé, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les écoles inclusives ouvrent de plus en plus leurs portes aux enfants à besoins spécifiques. À Yaoundé, 3 écoles inclusives assurent l'éducation et la formation à ces enfants déficients visuels ou autistes. Mais leur éducation est encore onéreuse. La formation du personnel enseignant pour ce type d'élèves et la disponibilité du matériel adéquat sont aussi des défis à relever. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
C'est la récréation pour les élèves de l'école primaire inclusive de l'association pour handicap au quartier Mimbouman à Yaoundé. Une école qui ouvre ses portes aux élèves présentant certains handicaps. Depuis le démarrage de la rentrée scolaire lundi dernier, ils sont regroupés dans 4 salles de classe, dites spéciales.
Ça nécessite beaucoup de temps, puisque même avec les enfants dits normaux, c'est pas facile. Hein.
20 élèves sont inscrits au niveau 4 de la salle de classe spécialisée. Monique Ngohendie est leur enseignante.
J'ai les IMC aussi, comme elle, ainsi même aussi cérébral. J'ai les trisomies, j'ai les autistes, j'ai les retardés légers. Donc l'enseignement ici est individuel.
L'an dernier, certains élèves ont décroché le diplôme officiel, sanctionnant la fin des études du premier cycle. Pierre Tsofak, directeur de l'école primaire inclusive de Pro Handicap.
Nous avons eu 4 non-voyants qui ont réussi au CEP et 3 autistes.
À Yaoundé, c'est dans l'enceinte du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun que se trouve l'école maternelle primaire inclusive Lubraï. Le site abrite aussi les locaux du Centre national de l'inclusion. Coco Bertin est le directeur général.
Dans ce bâtiment, on réfléchit sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'éducation inclusive soit une réalité. On a une classe qui forme les déficients visuels. On a une imprimerie braille, un centre d'édition et de transcription braille qui a une grande capacité. Depuis 2013, au CEJARC, nous avons ouvert l'école inclusive à tous les types de handicap.
Dans une salle du centre, 6 élèves s'entretiennent avec le corps enseignant. Parmi eux, le jeune Caleb, qui a des problèmes visuels depuis son enfance. Cette année scolaire, il a quitté Bertois, à plus de 335 km de Yaoundé, pour intégrer le Centre national de l'inclusion à Yaoundé.
Je ne maîtrise pas encore le braille et je suis en classe de 3e. Je suis là pour apprendre mon braille pour que je puisse préparer mon BPC cette année.
3 principales structures éducative inclusive, fonctionnelle à Yaoundé, bénéficie du partenariat de la CBM, une organisation internationale chrétienne d'aide aux personnes souffrant de handicap. Dans le cadre de ce partenariat, Suzanne Gonguidjol-Pomme est agent de développement inclusif à base communautaire dans le 6e arrondissement à Yaoundé.
Tous les enfants vivant avec un handicap sont gardés dans les maisons. Nous allons d'abord les recenser dans les familles. Ensuite, nous essayons de rassurer les parents de ce que l'enfant ne doit pas seulement rester à la maison, mais il doit aller au contact des autres. Nous accompagnons ou nous orientons vers les établissements adaptés à recevoir ces enfants-là.
Le coût annuel de la scolarité des enfants à besoins spécifiques est de 360 dollars environ dans le centre spécialisé de la capitale. Dans les écoles de formation des enseignants, l'État camerounais a introduit des modules sur ce type d'élèves, parfois victimes de la marginalisation. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, le programme de réouverture des écoles a du mal à démarrer car la plupart des enseignants refusent de retourner en classe. Ils réclament une augmentation de salaire de 500% pour sortir de la pauvreté ainsi que des équipements de protection personnelle adéquats pendant cette pandémie de Covid-19. Les autorités menacent de remplacer ceux d'entre eux qui ne reprendront pas les cours. Columbus Mavunga dresse un état des lieux de Harare. C'est un récit de Dilidico.
Le Zimbabwe, comme d'autres pays africains, tente d'entamer une réouverture progressive des écoles, fermées depuis mars à cause de la pandémie de Covid-19. Mais de nombreux enseignants, comme Munyaradzi Masiyua, refusent de reprendre les cours en raison de bas salaires et de conditions sanitaires insatisfaisante. Ce professeur dit gagner plus d'argent en vendant des balais.
Nous avons la passion et nous aimons les enfants à l'école. Mais nous ne pouvons reprendre les cours que si le gouvernement fait suite à nos doléances. Nous sommes dans une situation qui laisse à désirer.
Les enseignants zimbabwéens disent vouloir au moins 500 dollars de salaire mensuel et davantage d'équipements de protection individuelle pour se protéger du Covid-19. Le gouvernement zimbabwéen, à court d'argent, dit qu'il a acheté 6 millions de dollars d'équipements de protection individuelle pour les écoles. En ce qui concerne les salaires, 100 dollars par mois, ainsi qu'une allocation Covid-19 de 75 dollars, c'est le maximum que l'État puisse se permettre.
It is within this context that we are saying to the civil servants.
C'est dans ce contexte que nous disons aux fonctionnaires, soyez réalistes, faites preuve de modération dans la manière dont vous exigez des augmentations de salaire. Nous ne voulons pas d'augmentation de salaire qui vont bouleverser la stabilité économique que nous avons réalisée jusqu'à présent.
Mais sans enseignants en classe, ce sont les écoliers zimbabwéens qui paient le prix fort. Les élèves disent qu'ils ne peuvent aborder les leçons qu'entre eux et les parents craignent que leurs enfants n'apprennent pas assez pour réussir leurs examens.
Je souhaite juste que le gouvernement puisse négocier avec les enseignants pour que nos enfants puissent apprendre et qu'ils puissent prendre soin de nous dans l'avenir.
Pour l'instant, c'est le statu quo et le gouvernement zimbabwéen a menacé de remplacer les enseignants, refusant de reprendre les cours.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Élection américaine 2020, le président Donald Trump a perdu du terrain selon les derniers sondages nationaux, mais il bénéficie toujours d'un solide soutien dans les régions agricoles. Ses nouveaux accords commerciaux et son aide massive au secteur agricole y sont très populaires. Des faits que beaucoup d'agriculteurs auront à l'esprit, tout comme la pandémie du coronavirus lorsqu'ils choisiront le 3 novembre leur prochain président entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden. C'est un reportage de Ken Farabo et d'un récit de Lionel Gaïma.
Quelques mois plus tôt, l'agriculteur Ron Moore se préparait à affronter une autre année d'incertitude commerciale avec la Chine, un des principaux importateurs du soja qu'il cultive dans ses champs dans l'Illinois. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la pandémie mondiale du coronavirus qui a secoué la chaîne d'approvisionnement alimentaire, faisant chuter les prix du gros bétail et des produits qu'il consomme.
Ici, cela a décimé la demande des céréales qui sont à la base de l'alimentation pour le bétail.
Le ministère américain de l'Agriculture a signalé que les prix du soja ont diminué de 35% entre 2014 et 2019, bien avant que la pandémie ne réduise davantage les importations chinoises. Ce fut un double revers, se souvient Ron Moore. Les prix du maïs, principale culture du fermier Wendell Showman, ont chuté de 44% entre 2014 et 2019. Il n'y a pas eu de reprise significative, déplore-t-il.
Ce fut une très mauvaise année du point de vue des prix. La plupart de mes ventes se situaient bien en dessous de ce que j'espérais.
Moore et Showman affirment que les paiements fournis depuis 2018 par un programme du ministère américain de l'Agriculture ont maintenu les agriculteurs en activité alors que l'administration Trump négociait de nouveaux accords commerciaux. Wendell Showman.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'auraient rien eu à manger si cette aide n'avait pas été fournie.
Le ministère américain de l'Agriculture a alloué en début d'année 19 milliards de dollars au secteur agricole alors que la pandémie affectait le secteur alimentaire national. 14 milliards de plus à l'agriculture ont suivi en septembre. Selon Adam Nielsen, directeur des affaires législatives du Bureau de l'agriculture de l'Illinois, près de 100 milliards de dollars fournis par le gouvernement au secteur agricole depuis 2016 ont eu un impact positif.
Nous avons été à même d'endiguer la vague de banqueroute de fermes. Les fermiers, sans se livrer à d'extravagantes dépenses, ont pu acheter des semences et de l'engrais pour de nouvelles semailles.
Wendell Showman reconnaît que le gouvernement n'a pas assez de ressources pour poursuivre cette assistance indéfiniment. Il crédite toutefois le président Trump pour les progrès accomplis sur les questions commerciales et espère que les États-Unis parviendront à un accord commercial permanent avec la Chine.
La façon dont il a traité les fermiers et nous a maintenus en activité n'avait pas à le faire. C'est très surprenant de la part des quelqu'un de New York qui en sait très peu sur l'agriculture, mais la soutient tant. J'aime ce qu'il a fait. Je n'aime pas la façon dont il parle parfois. Il pourrait avoir de meilleures manières.
d'où l'intérêt suscité chez Schumann par le message bipartisan du candidat démocrate Joe Biden.
Il est nécessaire de trouver le compromis. Il faut que les gens travaillent ensemble.
Un sondage mené fin septembre dans les zones rurales a montré que le président Trump dévance Joe Biden de 17 points. Ainsi, beaucoup de fermiers de l'Illinois le soutiennent selon la plupart des sondages dans cet État, mais à Chicago, principale ville de l'État et troisième ville américaine, l'ancien vice-président Joe Biden mène par 61% contre 36%.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, Georges Léonard Saignon, Joselle Monussin et Lionel Gaïma. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.